le 107.1. 15h tous les dimanches. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1, c'est la fête des pères aujourd'hui, alors ne me remerciez pas, hein. Il est encore temps d'envoyer un petit texto au vôtre, de lui passer un coup de fil. La fête des papas, prétexte pour nous cet après-midi pour échanger autour de l'évolution des droits de la famille en Europe, et donc plus précisément l'évolution des droits des pères européens. Certains États membres, vous entendrez, sont plus avancés que d'autres dans ce domaine. À mes côtés, comme tous les dimanches, Marie-Christine Vallée, la Madame Europe de Radio France, bonjour.
Bonjour Géraldine.
Alexandra Le Sieur, du site touteleurope.eu, bonjour Alexandra.
Bonjour à tous.
Alexandra qui, dans un instant, nous donnera des infos sur les congés parentaux aux quatre coins de l'Europe. Premier chiffre, seuls 2,7% des congés parentaux en 2010 dans l'UE ont été demandés par des hommes. Les invités de toute l'Europe sur France Bleu sont cet un Jean Latizeau, président de l'association SOS Papa. Bonjour.
Bonjour.
Députée européenne, membre de la commission droits de la femme et de l'égalité des genres, Constance Le Grip. Bonjour.
Bonjour.
Et Sarah Bertilsson, journaliste chez France 24. Bonjour.
Bonjour.
Sarah, vous êtes suédoise et c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui l'invitée de France Bleu 107.1. Parce qu'en Suède, les papas sont particulièrement modèles et modernes. L'émission, elle est disponible en podcast via iTunes et l'application Radio France Podcast. Un papa modèle et moderne, justement, Jean Latizeau, ça ressemble à quoi ?
J'aime pas beaucoup ces termes très génériques, assez mode. Bon, je crois que de tout temps, les papas, ils sont attachés à leurs enfants, ils les aiment. Il n'y a aucune raison de dire ou de penser qu'ils seraient un cran en dessous des mamans dans ce domaine. Donc après, c'est une question d'organisation, de... compris personnel, hein, du foyer. Bon, évidemment, en moyenne, les choses ont certainement évolué au fil des décennies, puisqu'il y a évidemment une époque où le père était en général à l'usine ou au champ 7 jours sur 7, et puis la mère qui n'avait pas de machine à laver, etc., faisait ce travail-là. Bon, voilà. Donc, en dehors de ces généralités-là, je préfère ne pas rentrer dans un débat trop byzantin sur ces questions-là.
Constance Le Grip, en Europe, la définition même de la famille aujourd'hui ?
Elle est très diverse. Elle reflète assez bien la diversité de notre Union européenne, hein, dont vous savez la devise, c'est « Unie dans la diversité ». Nous sommes une alliance, une union politique économique de 28 pays qui se caractérise par de grandes différences historiques, culturelles, linguistiques, bien sûr, y compris donc familiales. Il n'y a pas une acception pleine et entière communément admise en Europe de ce qu'est la famille. Simplement, tous les pays européens, en tout cas tous les pays membres de l'Union européenne, connaissent actuellement un certain nombre de phénomènes sociologiques que nous connaissons bien en France. L'éclatement de la famille dite traditionnelle dans certains secteurs, surtout les secteurs urbains, les grandes villes, l'apparition de familles monoparentales, l'apparition des familles recomposées, sans parler des familles avec couples de même sexe. Donc tout cela est très divers, il n'y a pas d'appellation de la famille communément admise en Europe. Et d'ailleurs, il n'y a pas de droit de la famille européen. Je tiens à le dire d'emblée, le droit de la famille n'est pas une compétence de l'Union européenne. Nous ne légiférons pas en matière de droit de la famille. C'est important de le dire.
Dans le rapport sur la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes, vous chargez la Commission de coordonner et de promouvoir l'échange de bonnes pratiques.
Tout à fait.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Comme il n'y a pas justement de compétences, de pouvoirs, de prérogatives de l'Union européenne dans la matière, il est quand même intéressant, dans la mesure où nous sommes une union de pays, de voir ce qui se passe chez les autres et de pouvoir éventuellement s'en instruire. L'échange de bonnes pratiques, c'est d'abord d'observer, d'analyser ce qui se fait de mieux chez les autres, de voir comment s'en inspirer. Globalement, ce qui est important, ce qui est le cœur de cette stratégie européenne pour l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est d'être fidèle à ce principe fondateur du projet européen, inscrit dès les origines dans le traité de Rome, toujours renouvelé depuis, écrit également dans la charte européenne des droits fondamentaux, qui est le principe d'égalité entre hommes et femmes. Et bien sûr, quand on parle d'égalité entre hommes et femmes, on parle d'égalité professionnelle, égalité d'accès à l'éducation, par exemple, égalité de revenus, égalité de pension de retraite, etc. Mais on parle également égalité des rôles, balance, équilibre, compatibilité optimale pour aussi bien les pères dire que les mères, entre vie professionnelle et vie familiale, et tous ces sujets-là sont au cœur de ces discussions et de ces échanges de bonnes pratiques que nous devons approfondir.
Sur la question des congés parentaux, là aussi, la volonté de la Commission, équivalent pour les femmes, pour les hommes, dans l'idéal ?
Alors, très franchement, à l'heure actuelle, je suis obligée de reconnaître que la question des congés parentaux et donc d'une éventuelle directive en la matière, comme la question du congé maternité, d'une éventuelle directive d'harmonisation en la matière, ne sont pas au cœur des priorités ni de la Commission européenne, ni du Conseil de l'Union européenne, chef d'État et de gouvernement, Conseil des ministres. Il ne vous a pas échappé que l'Union européenne fait face à des défis et des challenges et des menaces particulièrement graves et effrayants en ce moment, et que par ailleurs il y a une forte demande de la part de nos opinions publiques, de nos peuples européens, à ce que l'Union européenne se concentre sur un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre de compétences qu'on pourrait appeler l'essentiel, là où il faut vraiment faire des choses ensemble sans empiéter sur les domaines de compétences nationaux, sans empiéter sur ce qu'on appelle la souveraineté nationale, à laquelle nous voyons bien que de plus en plus de peuples européens sont viscéralement attachés. Donc tout cela fait que les projets de directives en matière de congé parental, de congé de maternité, etc., voire les révisions de vieilles directives, ne sont pas très franchement on top of the agenda à l'heure actuelle.
Alexandra Le Sueur, sans surprise, ce sont toujours les mères qui prennent ce congé parental.
Oui, en Europe, selon une étude Eurostat, seuls 2,7% des congés parentaux en 2010 dans l'Union européenne ont été demandés par des hommes. Et pour la France, ce sont seulement 2% des pères qui prennent un congé parental à temps plein contre 28% des mères. C'est en Suède, en Allemagne et au Royaume-Uni que les mères interrompent le plus leur activité pour s'occuper de leurs enfants en dehors du congé de maternité. À 75% pour les mamans suédoises, 56% pour les mères allemandes et 49% pour les mamans britanniques. En France et en Belgique, elles sont 32%, soit davantage qu'en Espagne, 17%, mais moins qu'en Italie, 38%. Ces écarts s'expliquent en partie par les différences de législation du congé parental entre les pays, ainsi que par leurs particularités en matière d'offres de mode de garde. Et puis, il faut aussi noter que plusieurs pays européens n'octroient aucun congé paternité, notamment la République tchèque, la Slovaquie et l'Allemagne. À l'inverse, les pères bénéficient après une naissance de 11 jours de congé en France, 15 jours en Espagne et même 64 jours en Slovénie.
Sarah Bertilsson, au vu de ces chiffres, les parents suédois sont parmi les parents de l'Union européenne qui finalement réussissent le mieux à équilibrer leurs responsabilités familiales et leur activité professionnelle. Vous l'expliquez comment ?
C'est très simple, ça s'explique par une volonté politique très, très forte. Et qui dure depuis des décennies, en fait. Ça a commencé déjà dans les années 70. La création d'une assurance parentale pour les hommes et les femmes. Donc et après, ça a évolué avec le temps, ça a changé. Et aujourd'hui, on a 16 mois de congé parental en Suède. Mais c'est une volonté politique. C'est pas quelque chose qui est tombé du ciel ou qui a changé du jour au lendemain. C'est un chemin. Et ça, et comme vous dites, c'est 25% de pères suédois, donc on n'est pas à 50%. Donc on n'est pas arrivé au bout, parce que c'est quand même, c'est pas pour tout le monde le but d'arriver à 50-50 ou à 60-40%, mais de beaucoup d'hommes, de femmes politiques, c'est quand même l'idéal que cet congé parental sera partagé plus équilibré qu'aujourd'hui, en tout cas.
Alexandra Le Sueur, quand on regarde les indemnisations des congés parentaux, là aussi, la situation très différente d'un pays à l'autre.
Oui, et c'est même le grand écart, puisque l'on oscille de 0 à 100% du salaire pour indemniser le congé parental en Europe. Certains pays privilégient les aides financières aux familles, d'autres les offres de services pour la petite enfance, et d'autres encore les avantages fiscaux. Alors, les pays nordiques sont les plus généreux. En Suède, qui est le premier pays européen à avoir instauré le congé parental en 1974, les parents peuvent prendre un congé parental de 16 mois. Après le congé maternité ou paternité de 2 mois, les 360 jours qui restent sont à partager entre les deux conjoints et l'indemnisation s'élève à 80% du salaire. En Autriche, le congé peut durer jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Ce sont des modes d'indemnisation forfaitaire qui vont de 1 000 euros versés aux parents qui prend le congé parental pendant 14 mois jusqu'à 436 euros pour une allocation versée jusqu'au 30e mois de l'enfant. Également considérée comme un exemple, la Finlande, qui prévoit quant à elle un congé parental payé jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Le salaire est versé en principe à 75% et des allocations familiales peuvent compléter l'écart manquant. Et puis l'Estonie, où le congé parental y est de 156 semaines. également jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Il est rémunéré 62 semaines à hauteur de 2 143 € par mois, une prestation remplacée ensuite par une allocation pour enfants. En Slovaquie, il existe aussi un congé parental, toujours jusqu'aux 3 ans de l'enfant, mais l'indemnisation forfaitaire est moindre, comparée à l'Autriche et à la Finlande, puisqu'il ne s'élève qu'à 194,70 €. Cette indemnisation chute à 96 € en Pologne pour un congé parental qui peut aussi durer 3 ans. Plus au sud, chez nos voisins portugais, les parents ont droit à un congé parental de 120 jours, rémunéré à 100% de leur revenu de référence.
Et puis on aurait pu citer l'Islande aussi. Dans ce pays, le congé parental est partagé à égalité entre les deux parents. Un trimestre pour la mère, un trimestre pour le père, puis un reliquat de 3 mois à diviser au sein du couple. À l'inverse, Alexandra, des pays, certains, qui ne rémunèrent pas le congé parental.
Oui, au Royaume-Uni, en Grèce, en Espagne, en Irlande et même en Italie, les parents ont droit à un congé parental, mais peu ou pas du tout rémunéré. En Espagne, les régions peuvent néanmoins accorder des aides. Et au Royaume-Uni, depuis 2011, on peut noter que les pères peuvent prendre une partie des 24 semaines de congé maternité si leur femme reprend le travail plus tôt.
Sarah Bertilsson, vous nous l'avez dit, hein, la Suède, souvent citée comme exemple dans ce domaine, parce que ça a été une véritable volonté politique, cette politique familiale. Facteur aussi de ce succès, c'est toutes les infrastructures pensées autour, pour que ce soit les modes de garde, les indemnisations, effectivement.
Oui, mais ça a été fait justement. Mais on a plus ou moins créé ces structures avant que la volonté du peuple, avant la volonté du père. Mais donc, c'était des structures créées qui, au fur et à mesure, ont été remplies par les parents. Donc, je veux dire, c'est pour ça qu'on peut dire que la loi a été avant le besoin, l'envie, en fait, des parents.
La famille type en Suède aujourd'hui, la maman travaille, le papa également, et tout s'organise très naturellement.
Non, je pense pas qu'on peut dire ça. Et il y a des possibilités pour que les deux parents puissent travailler. Et, il y a aussi, ça commence à changer, parce que c'est aussi beaucoup une question de regard des autres, des possibilités pour les pères, même s'il y a une loi qui donne le droit de prendre un congé parental. Et il faut aussi que l'employeur le voit avec le même bon œil et qu'il soit aussi d'accord et que ça incite les parents les pères de le faire. Donc et ça commence à changer. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de pères qui veulent rester à la maison avec leurs enfants et que c'est bien vu par la société. C'est même un avantage dans sa carrière de dire que moi je suis restée avec mes enfants à la maison, et ça empêche pas une évolution dans le travail, au contraire ça commence à être vu comme quelque chose de plus, mais ça, comme je dis, ça a été un long chemin et c'est pas, après ça dépend un peu de domaine de travail bien sûr aussi.
Constance Le Grip, nos voisins scandinaves souvent cités comme exemple, ça se vérifie avec vos homologues?
Oui, ça se vérifie si on prend effectivement les critères qui viennent d'être évoqués en considération, qui sont des critères tout à fait importants, permettre aux pères de pouvoir passer du temps avec leurs enfants, notamment avec leurs très jeunes enfants, et avoir toute une série d'instruments qui permettent un bon équilibre et une bonne compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale, tant pour les mères que pour les pères. Encore une fois, j'insiste sur ce sujet. Moi, il y a une autre considération que je trouve importante, compte tenu de ce qu'est l'évolution de la démographie en Europe. Nous sommes un continent vieillissant. Moi, je suis très attachée à ce que nous retrouvions, que tous les pays européens réfléchissent sérieusement, approfondissent leur réflexion, peut-être fassent de l'échange de bonnes pratiques, pour retrouver du dynamisme démographique. Nous voyons bien l'explosion démographique qui caractérise un certain nombre de continents, à commencer par le continent qui est vraiment juste de l'autre côté de la Méditerranée, le continent africain. C'est une donnée mondiale absolument incontournable, considérable par tous les impacts, toutes les conséquences qu'elle peut entraîner. Moi, je suis très attachée à ce que nous retrouvions le chemin de la croissance démographique. Ça ne veut pas dire verser dans une espèce de nostalgie nataliste ou se gargariser de politique nataliste qui pourrait être perçue comme démodée, voire réactionnaire. Mon discours n'est pas du tout celui-là, mais par exemple, faire en sorte que ce qui a été longtemps, ça l'est un tout petit peu moins vrai maintenant, mais le modèle français, la combinaison de toute une série d'instruments de politique familiale, de mise en place de garde pour les enfants, tant mise en place de garde collective que de garde à domicile, avantages fiscaux, etc., etc., qui sont un petit peu reniés à l'heure actuelle, et d'ailleurs je le regrette, que ce modèle français qui a permis d'avoir un taux de natalité élevé, plus élevé que la moyenne européenne, je souhaite que tout cela fasse partie de nos réflexions, parce que l'enjeu démographique, alors l'enjeu du bien-être, du bonheur de nos enfants, du bonheur des pères et des mères qui doivent s'épanouir dans leur rôle est tout à fait essentiel. Bien évidemment, on travaille tous à l'amélioration du monde et donc à l'amélioration du bien-être de nos compatriotes européens, mais l'enjeu démographique me semble devoir également entrer en ligne de compte, et de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir comment les choses se passent en Scandinavie. C'est vrai, il y a des enseignements à en tirer, et il y a aussi des enseignements à tirer de ce qui se passe en Allemagne par exemple, versus ce qui se passe en France, si on prend bien en compte ce critère démographique, encore une fois, qui n'est pas à négliger, loin de là.
Jean Lathizon, on a souvent enfermé le père, à tort finalement, dans cette image d'autorité, négligé trop souvent l'importance de la place du papa dans l'épanouissement de nos enfants. Il était temps que ça change.
J'appelle pas ça une révolution, j'appelle ça quelque chose de naturel. Et en tout cas, à travers notre filtre, mais qui est pas un filtre anecdotique, puisque ça concerne les parents séparés ou divorcés, on sait très bien que c'est plus de la moitié de la population. Toutes ces questions-là que j'entends sont assez, pour nous, assez surréalistes, hein, parce que on est en train de regarder une question, effectivement, qui est très prégnante, mais par le petit bout de la lorgnette. C'est qu'est-ce qui se passe en termes de présence du père dans les tout premiers mois de l'enfant, etc. Bon, c'est passionnant, mais la question qui vient juste après, c'est qu'est-ce qui se passe en termes de présence du père toutes les années après, pendant toutes les années qui sont quand même majoritaires, où l'enfant en particulier est mineur, et en cas de séparation, et je le répète, c'est plus de la moitié de la population. Ben, ce qui se passe, c'est quand un père, en France et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, souhaite s'occuper à parité de son enfant, il en est empêché, par les mœurs judiciaires en particulier.
Jean Lathizon, président de l'association SOS Papa, la députée européenne Constance Le Grif et Sarah Bertilsson, journaliste suédoise. Ensemble, on fête les papas. Prétexte donc aujourd'hui pour s'intéresser à l'évolution des droits de la famille en Europe.
France Bleu 107.1, la musique qu'on écoute dans toute l'Europe.
Qu'est-ce que nos voisins européens écoutent en ce moment? Chaque dimanche, je fais le tour des charts pour vous. J'écoute les radios de nos confrères et je ne garde que le meilleur ou parfois le pire. Exemple, celui-ci de refrain, il m'a fait mal à la tête, c'est du rap finlandais, deuxième des charts là-bas. Le coupable est suédois depuis plusieurs années, il habite chez ses voisins, Sarah, je suis désolée, il s'appelle Petri Nyard. Petri Nyard, numéro 2 cette semaine des charts finlandais. La Finlande où la fête des pères tombe le deuxième dimanche de novembre. En Italie, la fête des pères coïncide avec la Saint-Joseph, un symbole du père et du mari dévoué. Et la tradition veut que ce jour-là, on mange le beignet de Saint-Joseph, un gâteau à base de crème ou de confiture avec une pâte semblable à de la pâte à beignet. En Italie, cette semaine, ils sont deux à flirter avec la première place, Jax et Fedez. Jax et Fedez, numéro 2 des charts italiens cette semaine. Et enfin, celui qui se prend pour Bruno Mars, ça se défend, si ce n'est qu'il est grand, blond, musclé, aux yeux bleus, qu'il est danois. Il s'appelle Christopher, avec son refrain « I won't let you down ». Christopher, les Danois sont redingues de lui. La fête des pères au Danemark, c'est le 5 juin. Fête des pères, prétexte aujourd'hui pour échanger autour de l'évolution des droits de la famille en Europe. et plus particulièrement ceux des papas. Certains de nos voisins sont meilleurs que d'autres. Avant 16h, une nouvelle session de charts. Nous irons en Autriche, en Belgique et en Grèce.
Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 avec touteleurope.eu.
Avant 16h également, Marie-Christine Vallée nous expliquera que le droit de la famille n'est pas une compétence de l'Union européenne, mais que comme dans d'autres domaines, l'Union a mis en place un minimum de règles communes. Mais d'abord, Marie-Christine, votre revue de presse européenne.
Eh bien, la France encore et toujours dans les pages des journaux européens, surtout après les violences de mardi dernier et la présence dans Paris de plusieurs centaines de casseurs. Ces soi-disant débordements, commente la radio Deutschlandfunk, ces soi-disant débordements révèlent en fait une intensité criminelle que seule la haine peut expliquer. Haine contre la police, haine contre le pouvoir d'en haut. Plus largement, la radio publique allemande perçoit en France une inquiétude, un isolement et un repli sur soi, ce qui lui fait dire que la cohésion des Français va à volo. Qui est responsable de ce chaos actuel en France? C'est un journaliste et chroniqueur français, Jean-Marie Colombani, qui répond dans le Corriere della Sera. Selon lui, c'est la CGT qui, avec les syndicats hostiles au projet de loi travail, représente une minorité. Et le chroniqueur français explique aux lecteurs italiens que par ce mouvement, la CGT, en passe d'être reléguée derrière la CFDT, recherche une nouvelle légitimité. En Roumanie, un éditorial lu sur le portail Adevarul appelle les Français à la réalité. En Grande-Bretagne, en Allemagne et aux États-Unis, on embauche et on licencie sans contrainte. Les Français et leurs syndicats ne veulent pas l'accepter. Ils ne veulent pas voir que la mondialisation a des répercussions sociales, estime l'auteur de ce blog roumain. À lire aussi cette analyse inattendue dans le Tageszeitung, le TAS. Inattendue pourquoi? Eh bien parce que le TAS pense que c'est l'Allemagne qui est responsable de la situation française. Ce sont les Allemands qui ont exporté leur chômage. Ils ont plafonné leur salaire pour créer un avantage compétitif aujourd'hui de 20% par rapport à la France. Tandis que les Français ont laissé évoluer leurs revenus pour ne pas créer la concurrence par le dumping social. Ils en paient le prix aujourd'hui. Le journal va même jusqu'à parler d'agression allemande et conseille d'augmenter les salaires en Allemagne. Autre sujet d'inquiétude, le Brexit. Le vote est dans 5 jours et les journaux britanniques rendent évidemment hommage à la députée assassinée en pleine campagne du Brexit. Des journaux qui prennent aussi position, beaucoup le font, comme le Sun, et ça fait déjà quelques semaines, qui appelle clairement au Brexit. Mais à l'inverse, The Economist est pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union, ainsi que le Financial Times, qui verrait dans la sortie un acte gratuit d'automutilation. Ce journal reçoit d'ailleurs le soutien aux Pays-Bas du quotidien Algemeen Dagblad, journal néerlandais qui a publié un numéro spécial cette semaine, tout en anglais, pour dire aux Britanniques « Nous vous aimons et nous avons besoin de vous ». Le magazine anglais New Statesman se demande, lui, si dans ces derniers jours, le football aura un impact sur le référendum et influencera le résultat du Brexit. Le championnat d'Europe, écrit-il, c'est l'exemple même de notre participation active à l'Europe. Et on ne peut exclure une passion pour l'euro dans les derniers jours de la campagne électorale. On trouve aussi quelques prospectives dans la presse, comme dans le journal tchèque Hospodářské noviny, qui conclut que si le Royaume-Uni sortait de l'Union, eh bien ce serait un point de non-retour et une décision définitive. Ou encore en Suède, le Göteborgs-Posten, qui décrit la campagne comme une bataille populiste. Il reproche aux deux camps d'avoir porté la bataille sur le terrain émotionnel et en particulier aux pro-maintien de ne pas avoir assez travaillé sur la question des valeurs. Tout cela, prédit le journal suédois, va laisser une Grande-Bretagne divisée. Alors cette Grande-Bretagne est au centre de toute l'attention et ça va ne faire qu'enfler dans les jours qui viennent. Quel est le climat au Parlement européen, Constance Le Grip, actuellement? Est-ce que l'on parle déjà des conséquences au cas où le Royaume-Uni sortirait?
Je ne vous cache pas que le climat au sein du Parlement européen, au sein de la plupart des groupes parlementaires, pas de tous, hein, bien évidemment, mais de la plupart des groupes parlementaires, en tout cas ceux qui participent de la majorité, je dirais, constructive, et dont le mien, le groupe PPE, est marqué par l'inquiétude. Marqué par l'inquiétude, parce que nous avons vu effectivement la progression des sondages, on peut toujours douter un peu des sondages, mais quand même, il y a pas que les sondages, il y a aussi ce que ramènent les uns et les autres, des conversations sur les pas de porte, dans les pubs, dans les bureaux, etc., etc., dans les familles, la progression de l'envie de sortir. Et donc, nous sommes inquiets. On commence à réfléchir effectivement à tous les scénarios, y compris celui du Brexit, et on commence, même s'il n'y a pas encore de conversations officielles, entre guillemets, à néanmoins envisager ce que cela voudrait dire en termes, par exemple, très concrètement, de participation et de droit de vote des députés européens britanniques, ce que cela voudrait dire en termes de participation et de droit de vote des membres britanniques à la table du Conseil, Conseil européen comme Conseil des ministres, quid donc du vote des ministres et des parlementaires européens britanniques, quid de la future présidence européenne qui devrait être exercée en 2017 par le Royaume-Uni, tous ces sujets très précis, et puis quid bien sûr des nombreux fonctionnaires britanniques qui peuplent les rangs de l'administration, tant du Parlement européen que de la Commission européenne, où il y a également un commissaire britannique, et non des moindres, en charge d'un sujet important, important pour l'Europe et important pour le Royaume-Uni. Voilà, tous ces sujets sont sur la table, il n'y a pas de conversation encore officielle, parce qu'on ne souhaite pas braquer, crisper, provoquer des étincelles qui seraient préjudiciables à ces derniers jours de campagne, mais il y a de l'inquiétude. Nous avons, nous, au sein du groupe PPE, fait ce que nous pensions devoir être fait, être dit, pour affirmer à quel point nous étions attachés au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, sans du tout ni faire de l'interventionnisme excessif, ni de l'ingérence politique qui pourrait être contre-productive et préjudiciable. Mais nous avons souhaité émettre des messages d'amour, je dirais, d'amitié, de solidarité avec celles et ceux de nos collègues qui se battent pour convaincre leurs électrices et leurs lecteurs du bien fondé, du maintien et du fait que le Royaume-Uni a un avenir dans l'Union européenne et que nous avons besoin du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Mais je ne vous cache pas qu'il y a de l'inquiétude. On va d'abord certainement avoir à discuter entre nous. Il va y avoir une conférence des présidents extraordinaire dès le vendredi 24 juin, peut-être et même certainement une session extraordinaire pour que tous les groupes politiques puissent s'exprimer. En même temps, cette inquiétude, elle vaut pour les conséquences et pour le Royaume-Uni d'une éventuelle sortie, mais également pour le reste de l'Europe. On aura certainement, en cas de Brexit, ce que, encore une fois, je ne souhaite pas du tout, on verra certainement un certain nombre de groupes politiques plastronnés, paradés, pousser des cris de joie et des hurrahs, et tout cela participe de notre inquiétude. Oui.
Toute l'Europe sur France Bleu 107.1, c'est tous les dimanches à 15h avec Marie-Christine Vallée, la référence européenne de Radio France, et pour le site toute-l'europe.eu, partenaire de votre émission, Alexandra Le Sueur. Pour la fête des papas, c'est aujourd'hui. On s'intéresse à l'évolution des droits de la famille en Europe et plus précisément les droits des pères européens. Nos invités, Jean Latizeau, président de l'association SOS Papa, Constance Le Grip, députée européenne, membre de la commission droits de la femme et de l'égalité des genres, et Sarah Bertilsson, journaliste chez France 24. Votre émission, elle est disponible en podcast sur les plateformes de Radio France et de France Bleu via iTunes et l'application Radio France Podcast sous le nom 107.1 Toute l'Europe.
France Bleu. Bonjour, je voudrais un timbre, s'il vous plaît.
Un timbre classique ou le...
Le quoi? Ah, ben oui, je vais prendre le...
Découvrez le timbre officiel de l'UEFA Euro 2016 et les produits séries limitées en bureau de poste et sur laposte.fr.
Dans la limite des stocks disponibles.
La Poste, opérateur officiel courrier-colis express de l'Euro 2016.
Ne laissez pas quelques petites rides gâcher votre joli sourire. En ce moment, en magasin, vous êtes satisfaite ou remboursée sur une sélection de produits anti-rides Nivea Q10. Et ça vaut bien un petit sourire, non? Offre soumise à condition sur les produits Nivea Q10 porteurs de l'offre dans la limite des stocks disponibles. Modalité complète sur Nivea.fr.
Optimisez vos déplacements en Île-de-France avec Radio France, en collaboration avec VTrafic, service d'information trafic en temps réel, sur GPS, smartphone et sur v-trafic.com.
L'Europe sur France Bleu 107.1 Paris tous les dimanches à 15h en podcast via iTunes. À mes côtés, Marie-Christine Vallée, la Madame Europe de Radio France, Alexandra Le Sueur du site toute-l'europe.eu, partenaire de votre émission, et nos invités, Jean Latizeau, président de l'association SOS Papa, Constance Le Grip, députée européenne, membre de la commission droits de la femme et de l'égalité des genres, et Sarah Bertilsson, journaliste chez France 24. Ensemble, on fête les papas d'Europe. C'est aujourd'hui en France, mais c'est aussi
aussi en Grèce, en Irlande, à Malte, aux Pays-Bas, outre-Manche, en Slovaquie, ou encore même si on dépasse les frontières européennes, c'est la fête des pères également aujourd'hui en Tunisie, au Venezuela ou encore au Sénégal. SOS Papa, Jean Latizeau, une association qui défend depuis bientôt 26 ans l'égalité parentale, le droit des enfants et à avoir leurs deux parents et de manière égale, avec des antennes un petit peu partout en France, des contacts également avec vos voisins européens quand c'est nécessaire.
Nos voisins, association, bon, c'est pas vraiment nécessaire, comme l'a dit Madame Le Grip d'ailleurs, puisque chaque pays a ses prérogatives, hein, une totale prérogative en la matière. Ça veut bien dire que ce qui s'applique, c'est la loi de chaque pays. Bon, pour la France, c'est le code civil. Et donc, c'est là-dessus que nous travaillons. Et il y a énormément de choses à faire. Donc, c'est pas en se dispersant avec nos maigres moyens, en ayant des contacts.
Mais les bonnes pratiques des uns et des autres.
Il n'y a pas de bonnes pratiques, pratiquement. Hein, je crois que... on pourra peut-être le détailler, même si c'est un petit peu compliqué. Je dis tout de suite d'ailleurs que il y a beaucoup d'idées préconçues ou approximatives plutôt, c'est-à-dire qu'en la matière, c'est vraiment au millimètre près. Hein. C'est pas des millimètres puisqu'il s'agit de lois, il faut regarder ça vraiment à la syllabe près, à la virgule près. Donc en revanche, là où on peut avoir des contacts européens, puisque c'est effectivement le focus de cette émission, eh bien c'est quand il y a un frémissement dans une instance européenne. Alors des frémissements, il peut y en avoir, alors en dehors des instances parlementaires, à la Cour européenne des droits de l'homme, qui de temps en temps s'intéresse à la question, et effectivement a été amené plusieurs fois à condamner la France, hein, parce que un parent ou un père en l'occurrence était vraiment traité de façon extrêmement discriminatoire. Alors j'insiste sur le extrêmement parce que le discriminatoire, lui, c'est la règle courante. Hein. Bon. Et puis il y a eu aussi fin 2015 un très intéressant débat alors dans l'assemblée voisine, qui est l'assemblée parlementaire des communautés européennes. Avec madame la rapporteure Eto Gache, qui est une luxembourgeoise, qui avait été ministre de l'égalité, et qui en effet a conduit toute une réflexion qui a abouti à une motion votée à l'unanimité par tous les parlementaires de cette assemblée qui ne sont pas des députés européens. Être très très fort, vous voyez, en géopolitique déjà, pour y comprendre quelque chose. Hein. Moi, j'ai beau être bac plus 6. Donc, ils ont voté cette motion à l'unanimité. Et en effet, Madame Eto Gache avait lancé son enquête, puis sa proposition de mention sur le thème « Les inégalités subies par les pères en la matière ».
Constance Le Grip, les règles relatives justement aux droits de garde et de visite, propres à chaque pays, avec de grosses différences à chaque fois entre les pays ?
Tout à fait, de vraies différences, parce qu'on est dans l'application du principe de subsidiarité, hein, ce terme délicieux que nous avons emprunté au droit canon et qui fait qu'en raison d'un principe de proximité, ce sont les dispositifs nationaux qui s'appliquent en la matière. Alors, au Parlement européen, on n'a donc pas vocation, parce que ça n'est pas une compétence de l'Union, à légiférer, à proposer des dispositifs, directives, règlements en la matière, même si c'est quand même toujours intéressant de voir ce qui se passe dans les autres pays. C'est évident, ça enrichit la réflexion, et pas que la réflexion, mais on a quand même eu l'occasion de se pencher sur quelque chose sur lequel je veux un tout petit peu insister, qui est, et là on touche à la dimension franco-allemande, au fonctionnement du couple franco-allemand, qui est la situation des divorces binationaux français-allemands, où on voit qu'il y a, en vertu de la manière dont le Jugendamt allemand applique la législation allemande, une préférence quasi systématique qui est donnée par l'Allemagne au droit du parent allemand, quelquefois, donc dans le cas de séparation de couples binationaux, au mépris total des jugements rendus par un tribunal étranger, en l'occurrence un tribunal français. Là, un cas de discrimination avec cette dimension transfrontalière qui accroît encore la discrimination et dont le Parlement européen, à travers sa commission des pétitions, a eu à fortement se préoccuper, à telle enseigne que nous avons finalement voté tout récemment, en avril 2016, à une écrasante majorité au sein du Parlement européen, une résolution consacrée à plusieurs sujets, mais qui notamment appelait très précisément à la mise en place d'un cadre de coopération et de coordination renforcée, si je puis dire, sur les conflits transfrontaliers en matière de divorce et de séparation des couples parentaux, puisqu'il y a même, dans le cas, encore une fois, de cette relation si forte qui existe entre la France et l'Allemagne, des cas extraordinairement douloureux et touchants.
Jean Lartizot.
Oui, enfin, ce que dit Madame Le Grip concernant l'Allemagne, effectivement, est bien connu et particulièrement dramatique. Je ne vais pas aller jusqu'à faire l'historique de la législation allemande, mais elle est assez cocasse, si l'on peut dire, puisqu'elle vient directement des heures sombres de notre continent. Bon, mais cela dit, le même genre de choses aussi existe. Très récemment, j'ai rencontré dans nos permanences à Paris un père français qui avait des problèmes inouïs avec l'Espagne. Et par exemple, semble-t-il, en Espagne, la notion de non-représentation d'enfants, qui est un délit pénal en France, n'en est pas un... en Espagne, etc. Donc, et puis même, par exemple, en Espagne, et puis on va s'arrêter là, parce que je suis pas un spécialiste, et je doute que qui que ce soit autour de cette table en soit un. Il y a des législations un petit peu différentes par région espagnole. C'est très, très vite complexe. Alors, mais c'est vrai que, pour boucler là sur cette histoire de législation européenne, bon, en fait, quand on n'a pas très, très, très précisément les textes qui s'appliquent sous les yeux, avec une traduction parfaite en français, on ne peut pas parler sérieusement de cela.
C'est aujourd'hui en France, c'est également aujourd'hui en Grèce, en Irlande, à Malte, aux Pays-Bas, outre-Manche, en Slovaquie, ou encore au Venezuela, ou encore au Sénégal. C'est la fête des papas. On l'a fête ensemble avec Sarah Bertilsson, journaliste suédoise de France 24, Jean Lartizot, président de l'association SOS Papa, et Constance Le Grip, députée européenne, membre de la commission droits de la femme et de l'égalité des genres.
Toute l'Europe sur France Bleu 107.1.
Marie-Christine Vallée, dans l'Union européenne, des mesures pour les pères ou la famille, est-ce qu'elles sont prévues ?
Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le droit de la famille relève de chaque État membre et ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, mais comme dans d'autres domaines, l'Union a pu mettre en place un minimum de règles communes. Par exemple, en matière de mariage, de divorce ou de responsabilité parentale, on voit que les régimes juridiques sont très variés d'un pays à l'autre. Alors que faire, par exemple, quand il s'agit d'un mariage entre binationaux ou lorsque deux binationaux mariés décident un jour de divorcer, on va divorcer et selon quel droit ? Ou encore quand les époux sont de deux nationalités différentes et vivent dans un troisième pays de l'Union. Alors on s'en est préoccupé au niveau européen et c'est là que joue le volet parental, ce qui concerne la garde des enfants ou le droit de visite du père ou de la mère. Une fois que le tribunal a été déterminé, et son lieu également, en général c'est celui de la résidence des époux, le jugement devra être reconnu et exécuté dans les autres pays concernés, quand il s'agit par exemple du droit de visite exercé par l'un des deux parents. Dans le cas où un enfant est enlevé, c'est-à-dire qu'il est soustrait aux parents qui en a la garde habituelle, des procédures ont également été prévues et le tribunal compétent sera celui du pays où l'enfant avait sa résidence habituelle. C'est ce qu'on appelle de la coopération judiciaire et elle est inscrite dans un règlement appelé Bruxelles 2 bis. Il est appliqué depuis 2005.
Et puis Marie-Christine, on a abordé cet aspect au tout début de cette émission, les eurodéputés se préoccupent des pères européens. Ils veulent un congé paternité favorable pour tous.
Oui, et c'est récent, puisque c'est le mois dernier que les eurodéputés, en session plénière à Strasbourg, ont demandé que tous les papas de l'Union européenne aient droit à au moins 2 semaines de congé paternité après la naissance de leur enfant. Car pour le moment, la situation est très éclatée à travers l'Europe. En France, on peut prendre 11 jours, en Espagne 15 jours, mais il y a des pays où il n'y a aucun congé paternité, et notamment en Allemagne ou en Slovaquie.
Que le droit de la famille relève de chaque État membre, que ce ne soit pas une compétence de l'Union européenne. C'est quelque chose, c'est une valeur que vous défendez, Constance Le Grip. C'est important.
Absolument. Je suis très attachée à ce que l'Union européenne n'ait pas vocation à devenir un énorme machin s'occupant de tout, légiférant sur tout et écrasant les compétences nationales, écrasant la souveraineté nationale. Je pense que on est dans un cadre juridique tout à fait original et innovant. L'Union européenne, c'est une union politique, économique, sociale sur certains aspects, mais très très limitée, qui ni n'est une fédération, ni une confédération. Certainement pas un État centralisé fonctionnant avec de la centralisation du pouvoir et de la fabrication de la loi, et que nous devons rester fidèles à cette forme extrêmement originale, innovante, inégalée encore à ce jour à la surface du monde, de pays souverains qui librement décident de mettre en commun et d'exercer de manière commune des compétences, mais sur un ensemble de sujets assez limités en nombre, mais je dirais très important et très dense par leur importance et leur gravité. Le droit de la famille n'est absolument pas quelque chose d'anecdotique ou anodin, mais il touche à l'identité, à l'âme, à la culture, à l'histoire, aux traditions, tout en ayant également vocation à évoluer, à s'adapter et à devenir moderne. Et donc, je ne pense pas qu'il faille évoluer vers une européanisation du droit de la famille.
Jean Lartizeau, l'Europe, ses instances dans vos dossiers, de vrais échanges avec eux, du soutien ou pas du tout?
Ça a déjà été dit. De toute façon, enfin, nous, on a déjà assez de mal à essayer de faire avancer les choses, en partie au plan législatif en France. On va pas s'amuser à passer par l'Europe, qui, de toute façon, pour le moment, n'a pas d'impact direct législatif sur la France. Bon, c'est un sujet intéressant, mais ça serait plus purement intellectuel. Bon, moi, je veux pas prendre vraiment parti. Je vois pas pourquoi, à la limite, l'Europe s'occuperait pas. C'est comme ça pour le moment dans les traités, mais enfin, pourquoi y aurait-il pas des règles européennes homogènes en matière, en particulier, d'égalité parentale, de droit des enfants, etc., en cas de séparation, alors qu'on a plein de normes sur la taille des carottes, etc. Alors, je vois pas pourquoi, ça serait pas aussi une prérogative française, voire bretonne, d'avoir sa propre taille de carottes.
Vous aimeriez avoir l'Europe comme interlocuteur?
En théorie, oui, en pratique, non, parce qu'on comprend très bien que ça va mettre, si ça se fait, ça va mettre 20 ans à se faire. Hein. Donc moi, j'ai déjà 63 ans, donc je ne serai plus président depuis longtemps, dans 20 ans.
SOS Papa, Sarah Bertilsson, vous avez une idée d'une association qui pourrait se rapprocher de celle-ci en Suède?
Non, à vrai dire, non, mais je suis sûre que ça existe, des associations en Suède pour les droits des papas, et c'est vrai que ça existe aussi, bien sûr, des cas en Suède, des conflits en cas de séparation, donc des hommes qui s'organisent, bien sûr, pour porter la voix des
papas. Le combat de ces hommes, on le voit très souvent à la télévision, avec de vrais combats et des hommes et des papas en souffrance. Ça arrive régulièrement également à la télé en Suède.
Oui, bien sûr, on en parle, mais je voulais revenir un peu dans le, parce que en Suède, la garde alternée, c'est un peu la règle, et ça c'est de plus en plus commun. Et donc moi, je connais personnellement beaucoup de cas où l'enfant passe d'une maison à l'autre chaque deux semaines. Et mais en cas de conflit, et ça revient donc dans le fait de avoir de plus en plus de papas qui prennent du congé parental et qui s'applique directement dans l'éducation des enfants. Ça veut dire qu'en cas de conflit, quand les papas ils ont pris beaucoup de congés parentaux, quand ils ont été très, très appliqués dans l'éducation de l'enfant, ils ont plus de droits en cas de conflit. Ils ont plus de
reconnaissance.
Plus de chances d'obtenir un garde partagé.
Les invités cet après-midi dans toute l'Europe sur France Bleu 107.1, Sarah Bertilsson à l'instant, journaliste suédoise de France 24, Jean Lartizeau, président de l'association SOS Papa, et Constance Le Grip, députée européenne, membre de la commission Droits de la Femme et de l'Égalité des Genres.
France Bleu 107.1, la musique qu'on écoute dans toute l'Europe.
Deuxième et dernière session de Charts, l'idée étant de découvrir ensemble ce que nos voisins européens écoutent en ce moment. Alors celui-ci de refrain susceptible, je pense, de passer très vite les frontières autrichiennes et de nous faire danser cet été, il s'appelle Oli Gabriel. Son EP vient tout juste de sortir en Autriche, au Danemark et en Suède, bientôt chez nous, je parie. Il s'appelle Oli Gabriel. Nom de famille, de circonstance, il s'appelle Papadopoulos, Giorgio de son prénom, deuxième des charts cette semaine en Grèce. Giorgio Papadopoulos, deuxième des charts grecs. Et enfin, direction la Belgique, où la fête des pères là-bas, c'était dimanche dernier. Dans le top des charts belges, ce jeune américain, Niash, avec la complicité d'Olivia O'Brien. All alone, I watch you watch her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. C'est ce qu'écoutent en ce moment nos voisins belges. Toute la musique qu'on écoute en Europe, deux sessions de charts tous les dimanches.
Toute l'Europe sur France Bleu 107.1.
Dans 3 minutes, la conclusion de nos invités, mais d'abord l'agenda européen de la semaine à venir, Marie-Christine Vallée.
Les derniers jours de campagne pour le référendum britannique. D'ici à jeudi, plusieurs débats télévisés sont prévus entre les pour et les contre, organisés notamment par la BBC. Le vote jeudi prochain et les résultats officiels sont attendus pour vendredi à partir de 6h du matin. Demain lundi, les 28 ministres de l'Environnement vont se réunir à Luxembourg pour une déclaration sur la ratification de l'accord de Paris sur le climat. Mercredi, il y aura une session plénière de 2 jours au Parlement européen. Ce sera à Bruxelles. Les eurodéputés pourront entendre mercredi un discours du président israélien Reuven Rivlin et le lendemain, jeudi, un discours du palestinien Mahmoud Abbas. Jeudi, toujours à Bruxelles, on attend le 4e vote des experts européens sur la prolongation du glyphosate. La Commission propose de l'autoriser encore pendant 12 à 18 mois, le temps de faire de nouvelles études sur la toxicité de cet herbicide. Mais le point fort de la semaine restera bien évidemment le Brexit ou le non-Brexit. Et il n'est pas exclu que des dirigeants de l'Union européenne se retrouvent vendredi à Bruxelles autour de Jean-Claude Juncker, de Martin Schulz et de Donald Tusk, les présidents des 3 institutions européennes, pour faire un premier point au lendemain du vote britannique.
L'actualité européenne à retrouver aussi via le site toute-l'Europe.eu, site partenaire de votre émission. Alexandra Le Sur en une.
Notre dossier spécial Brexit avec notamment un article sur les grandes dates, sur les relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Un reportage vidéo aussi réalisé à Londres sur les causes de ce référendum. Et puis enfin un article sur la question de l'exemption de visa et le cas de la Turquie dans le contexte de la crise des migrants.
Toute-l'Europe.eu, francebleu.fr, votre émission, elle est en ligne. Et pour la podcaster, vous la trouverez sur iTunes, sous le nom 107.1, Toute l'Europe.
Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 avec toute-l'Europe.eu.
Les invités aujourd'hui de toute l'Europe sur France Bleu 107.1, Sarah Bertilsson, journaliste chez France 24, elle est suédoise, et on dit que les papas suédois sont particulièrement modèles et modernes, Jean Latizeau, président de l'association SOS Papa, et Constance Le Grip, députée européenne, membre de la commission droits de la femme et de l'égalité des genres. Constance Le Grip, l'égalité, cette fameuse entre les femmes et les hommes, valeur de base de notre Union européenne.
Tout à fait, valeur fondatrice du projet européen. Je ne veux pas m'étendre sur le concept d'égalité. Moi, je crois beaucoup aux bénéfices et à la valeur féconde de la mixité. Je pense que la clé dans la vie, c'est la mixité. La mixité, entre les hommes et les femmes, la mixité également à l'intérieur d'une alliance politique comme l'Union européenne. La richesse, elle vient de la mixité, de la confrontation des différences quand on s'additionne plutôt que quand on se divise.
Jean Latizot, on a longtemps pensé que seule la mère, finalement, était indispensable au bon développement de l'enfant. C'est fini, vraiment, ou il y a encore du chemin à faire? Et la preuve
Je crois que j'en ai parlé très clairement et de façon un peu plus incontestable avec des chiffres statistiques de très bonnes sources, le ministère de la Justice. Ce que je vais vous dire là va être mauvais genre en ce jour de fête, mais on n'est quand même pas là non plus pour cacher la gravité des choses. Voilà un deuxième chiffre qui est encore plus discret que les statistiques du ministère de la Justice. Il vient du rapport Violence Santé, ministère des Affaires Sociales 2005. Cette situation engendre spécifiquement un millier de suicides de pères tous les ans. Voilà, cette situation avec tous ces dérapages, parce qu'évidemment, c'est un petit peu comme qui vole un œuf, vole un bœuf. Alors, qui a de fait un espèce de droit de veto sur la résidence alternée, et conduit à toutes sortes de choses extrêmes, aliénation parentale, éloignement géographique, etc. Bon, donc tout ceci engendre tous les ans un millier de suicides de père, et ça c'est extrêmement difficile de progresser auprès de la classe politique qui passe son temps à faire semblant, passe son temps à éviter le sujet, puis quand ils peuvent plus l'éviter, ils font semblant.
Sarah Bertilsson, bonne fête papa en suédois.
Glad farsdag.
Bonne fête papa. Merci à vous, francebleu.fr, toute-l'europe.eu. Votre émission, elle est en ligne. Alexandra Lussure, merci.
Merci.
Marie-Christine Vallée, à dimanche prochain.
À dimanche prochain.
À 15h, dimanche prochain, on européanisera un dossier qui secoue la France, et ce depuis plusieurs semaines. Devinez, la loi travail. D'autres pays européens ont adopté avant nous des réformes.